on ne se parle plus, on ne discute plus.
Le problème est trop grave pour qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile.
Une gare.
Vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un
dérèglement.
Climat.
C'est un lieu où on croise.
Oui ou non?
Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Ça fait 50 ans que ça dure.
Les prévisions millénaristes, c'est qu'à...
Je n'ai pas fini.
C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre que je vis ma best life et que tout va bien.
Moi, alors, je suis wokiste, mon va très bien.
Les inégalités n'ont pas seulement explosé, elles se sont multipliées.
On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute
oui.
plus.
Non.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent. Incroyable, mais vrai, c'est déjà le dernier épisode de cette première saison de Grand Écart. On se retrouve en fin d'épisode pour faire le bilan de nos apprentissages. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on est très heureuse de ces 12 semaines. Vos dizaines de milliers d'écoutes nous font dire que nos questions du quotidien résonnent peut-être un peu chez vous. Alors, merci. Merci pour vos écoutes, vos retours, vos désaccords. Continuez à partager Grand Écart autour de vous.
Pour ce dernier épisode qu'on a voulu faire porter sur les repas de famille, on sèche sur l'accroche. D'habitude, on aime commencer par une situation que soit Lucie ou moi a vécue et où nos dents ont grincé, où nos sourcils se sont levés, qui nous fait vraiment dire que quelque chose de l'ordre du grand écart se joue ici. Mais là, ni Lucie ni moi n'avons réellement d'esclandre récurrente lors des repas de famille à partager. Alors, non pas qu'il n'y ait pas de dispute dans nos familles, hein, mais disons que l'on ne va pas à ces repas de famille comme si on allait à la bataille. Ou disons aussi qu'il nous reste peut-être encore un peu de pudeur et qu'on n'arrive pas trop à en parler sans tout dire. Alors, on a préféré tendre le micro directement autour de nous.
C'est chaud.
Non.
Fais gaffe. Miam, il y a du...
C'est quoi comme gentil, papa ?
Merci beaucoup. Tu veux quoi, moi ? Cuisse, blanc, toi t'aimes bien blanc.
Les occasions de se retrouver en famille sont nombreuses. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, il reste 10 jours avant Noël. Au mois de décembre, il y a également eu Hanouka. L'Aïd, c'est l'été en ce moment, mais il y a aussi d'autres célébrations religieuses ou non, des anniversaires, des vacances, voire même, pour les plus aguerris d'entre nous, les repas du dimanche. On ne va pas faire semblant. S'ils sont une source de joie, ces moments peuvent aussi être une source d'angoisse pour certains d'entre nous. Bon, papa, maman, si vous m'écoutez, bien sûr, je ne parle pas de nous, hein, je vous aime. Alors, on a tendu le micro à des amis autour de nous pour en savoir un peu plus sur leurs anecdotes familiales et ce qui fait que parfois, ça dérape et ça se tend. D'abord, les préparatifs. Qui prépare quoi? Est-ce qu'on fait des cadeaux? Qu'est-ce qu'on mange? Adélaïde nous raconte combien cette première étape peut être glissante.
Donc, j'étais en week-end et je reçois des messages de mon frère qui commence à me dire « Oh là là, tata, elle commence à m'énerver. Waouh, je commence à monter en pression. » Et je sais pas, je comprends pas en fait de quoi il parle. Et je vois sur le WhatsApp de famille, on est genre une quinzaine de vues, que ça commence un peu à s'exciter. Et on nous demande quel sera le repas de Noël et quel sera surtout le plat principal. On s'est porté volontaire avec mon frère parce qu'on est des anges à hoster et à faire du coup tout le menu. Et on leur sort un bœuf Wellington. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, ils ont pas l'habitude. Bref, voilà, la peur du changement, tout ça. Et là, vient juste une vague de messages, de « Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un bœuf en croûte, version anglaise, Kezako. Ah, vous allez le goûter d'abord, hein, parce que cette année, on sera pas des cobayes. Par précaution, je vais prendre un poulet rôti au cas où. » Et après, qu'est-ce qu'il dit l'autre? « T'as raison, Anne, je n'ai pas vu la tête de ce plat, donc j'ai pas confiance. » Et là, mon frère commence à monter en pression. On nous enchaîne encore, on leur envoie les photos pour qu'ils soient rassurés, et mon frère dit « Ça vous plaît pas? On le change. » Moi, je commence à avoir le vin chaud qui monte parce que j'étais à Strasbourg. Je leur dis, mais je vous trouve vraiment pas bienveillant. Enfin, on fait en sorte de recevoir tout le monde, de faire en sorte que le repas change un peu. On fait de la bouffe pour une dizaine de personnes. Enfin, soyez un peu reconnaissants. Surtout quand je suis invitée chez quelqu'un, je fais un effort et j'ai pas mon mot à dire. En fait, juste béaba de je suis une personne normale et civilisée. À ce moment-là, mon frère monte en pression. Mon oncle me demande, mais est-ce que tu l'as déjà testé, Laura? Parce que oui, une fois, il y a une année, j'ai loupé le gratin dauphinois. Ça a été genre juste le drame de ce Noël-là. Et je m'en... Bref, visiblement, c'est un trauma qui n'est pas passé. Et je me suis dit, mais enfin, je ne vais pas m'amuser à tester tous les plats de Noël. Enfin, je veux dire, on est 12, il y a plein de plats à faire dans ce menu. Enfin, ça ne va pas, non? Et puis, au pire, prenez-vous un poulet rôti. Nous, on fera ça en version bœuf et végé. Prenez votre poulet rôti si ça vous rassure. Je finis comme ça. On commence à me dire, mais faut pas le prendre comme ça, ni rien, t'es susceptible. Si tu le prends comme ça, ce sera sans moi, la classique. Alors que, enfin, c'est moi qui suis vexée, quoi. Et là, mon cousin, Tanguy de première, me dit « Le but, c'est quand même que ce soit bon et pas qu'on soit là pour vous dire le contraire. On dit ça pour que ce soit réussi. C'est quand même préférable de l'avoir réussi avant et que le jour J, on vous dise que c'est bon plutôt que vous le ratiez sur le moment et qu'on n'aime pas. » Donc, t'es en train de me dire que pour moi-même, il faut que ça soit réussi. Et toi, qui sais même pas cuire un œuf, tu oses me dire qu'il y a un intérêt à être bon. Bref, je suis en furie. Mon frère commence aussi à être trop vénère parce que justement, notre cousin Tanguy l'ouvre alors qu'il ouvre jamais sa bouche et qu'il sait pas cuire un œuf. Et là, ma cousine babose, mais on s'en fout, peu importe la nourriture, Noël, c'est fait pour la famille, pour la reconnaissance. Bref, ça passe pas du tout. Mais moi, je commence par, du coup, pleurer de rage parce que je comprends pas, en fait, comment on peut être aussi ingrat et aussi peu reconnaissant. Et moi qui pensais qu'en fait, ma famille serait épargnée par le fait que plus tu vieillis, plus tu deviens con. Pas vrai. Et ma mère arrive à ce moment-là pour closer le truc, clôturer et dire, non, mais la prochaine fois, vous leur demandez pas votre avis, les enfants, faites comme vous avez prévu de faire. Ce qui annonce du coup un Noël où je suis en demi passif-agressif aussi. Est-ce que je peux leur faire comprendre d'une manière un peu subtile qu'en fait c'était pas cool? Est-ce que je leur parle avant pour leur dire en fait c'était pas très bienveillant, j'aimerais que ça se recommence plus? Ou alors est-ce que j'en parle après ou est-ce que j'en parle pas? Et donc ouais, me vient l'idée de leur donner, leur offrir hein, soit des livres de bienséance, soit des livres sur la communication non-violente. Mais donc Noël s'annonce un peu épicé.
Et sinon, qu'est-ce qu'on mange? En ce qui me concerne, c'est ma question principale. Et je ne serais pas très honnête si je contribuais à cet épisode sans vous avouer que chez moi, le sujet du menu de Noël est souvent le plus tendu et celui pour lequel j'ai une fâcheuse tendance à m'emporter. C'est étrange, mais c'est comme si la qualité des plats devait traduire l'amour qu'il y avait dans ma famille et le soin que l'on s'apporte les uns aux autres, alors que ma mère, elle, veut se jouer des conventions, ce que je comprends aussi. Alors quand on me parle de patates sautées, je frise. Allez maman, j'espère que tu apprécieras mon honnêteté. Chez Antoine, le menu du repas de Noël a été une opportunité pour faire réaliser que les options végétariennes, c'était pas si mal.
À Noël, avec ma compagne, on est végétarien et on a décidé d'imposer le fait que on venait, mais on ne faisait pas d'exception. C'est-à-dire que voilà, on est les végétariens à table et donc on oblige un peu nos familles finalement à s'adapter. Donc l'année dernière, on avait un gratin de butternut qui était d'ailleurs très bon et les autres avaient une pièce de viande plus classique. Et je trouve qu'il y a aussi un petit coup du sort qui joue en notre faveur parce que ma mère a complètement raté sa pièce de viande qui était complètement cramée et tout le monde a bouffé du gratin. Et bah, coup du chance, en fait, les gens se sont dit bah, « il est très bon ce gratin ». Et j'imagine que parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de chance, un petit coup d'opportunité, une petite tarte tatin par-ci par-là pour faire bouger les gens, en fait, parce que sinon, d'eux-mêmes, ils n'ont pas l'idée de faire ça.
Claire nous témoigne de la difficulté à sortir du rôle que l'on a dans sa propre famille.
C'est toujours, je pense que je me mets toujours dans un état d'esprit, c'est Noël, donc cette fois, on va y aller de manière calme et genre, on essaye de faire zéro move de, bon, bref, de politique, tout ce qu'on veut. Je pense que je pars du principe que ça partira forcément en live, à un moment. Et j'attends un peu le moment, quoi. Mais je pense que, ouais, dans mes réflexions, c'est de me dire que malheureusement, et ça, je l'ai un peu compris, ouais, du coup, avec mon psy, en fait, en tout cas, dans ma famille, chacun, chacune a un peu pris un rôle, mais depuis toute petite. Enfin, on est du coup 7 en tout, donc 5 enfants et les deux parents. Enfin, typiquement, la personne qui va être tout le temps disponible pour tout le monde dès que quelqu'un a un problème et qui va être au téléphone et qui va être un peu l'infirmière, la personne qui va se permettre, enfin moi typiquement, de péter des câbles sur les sujets politiques et autres et pas hésiter à que ça parte en live. Ma petite sœur, c'est elle, elle va faire des câlins et en fait elle va jamais s'immiscer dans les relations, les discussions et ça va lui faire peur en fait de voir ça d'un œil extérieur partir en live. Mon père hyper médiateur qui déteste le conflit et ma mère qui va partir au front aussi comme moi, du coup ça part tout le temps. Et comme on a nos vies différentes, on a évolué même psychologiquement, on fait du travail sur nous, on lit des trucs. Je me dis, si on arrivait au repas de famille en mode avec aucun jugement, c'est impossible à faire, je sais, mais en se disant, je connais pas cette personne, et en fait c'est comme si j'étais un dîner d'amis, et je connais personne. Et tu sais, tu pars d'une feuille vierge, et en fait je pense que ça partirait moins en live. On est vachement plus dur avec les gens de notre famille parce que... Et je sais pas pourquoi. Enfin, ça, je sais pas pourquoi. Enfin, quand j'entends des choses dans les bouches de ma famille, je pense que je les aime tellement que je me dis non, pas vous, quoi. Enfin... Et surtout sur des sujets hyper... qui peuvent blesser, comme le lesbianisme, et que je sais que c'est un monde tellement différent pour eux, et que du coup je suis à la fois fière de me dire ils travaillent sur eux et ils le prennent bien, et ils lisent, ils se documentent, etc., pour pas faire de boulettes. Mais en fait, quand ils en font, ils le prennent personnellement, quoi. C'est genre, moi je vais dire, ces propos sont homophobes et ça me blesse. Et en fait, je pense comme tous les conflits, c'est genre, quoi, moi je suis homophobe, mais non, je suis pas homophobe. Et alors que c'est quelque chose de différent de dire, ça c'est homophobe, ça m'a blessé. Et tu n'es pas quelqu'un d'homophobe, et je le sais. Enfin, disons que je sais que c'est pas ton intention. Et voilà, donc il y a beaucoup de trucs personnels qui remontent comme ça.
Mais si seulement les défis des repas de famille s'arrêtaient à l'assiette. Dans repas de famille, il y a repas et famille. Des sociologues ont écrit de très belles critiques de la famille, de quoi vous faire passer l'envie de vous attabler. Pour Pierre Bourdieu, dans son livre « Les structures sociales de l'économie », la famille engendre une existence centrée sur l'éducation des enfants et est le lieu du culte de la vie domestique. Elle incarnerait même une sorte d'égoïsme collectif. Dans un autre de ses écrits qu'on vous met en référence, Bourdieu nous le confirme. La famille joue en effet un rôle déterminant dans le maintien de l'ordre social, dans la reproduction, non pas seulement biologique, mais sociale. Elle est un des lieux par excellence de l'accumulation du capital sous ses différentes espèces et de sa transmission entre les générations. Mais rassurons-nous, pour remédier aux sociologues démoralisants, je suis allée chercher dans la littérature des textes qui donnent envie de se retrouver en famille. Bon, c'était pas si évident, car il y a aussi de très très belles critiques de la famille. Mais ces livres existent quand même, et rien que d'y penser peut donner d'un coup super envie de passer quelques jours avec ses cousins au troisième degré. Bon, puis ça vous fera potentiellement aussi des idées de livres à offrir à votre famille. On peut diviser les livres qui donnent envie de faire famille en plusieurs catégories. Il y a d'abord les livres où la famille est le lieu de l'enfance heureuse. Je pense à 13 à la douzaine, aux 4 filles de Dr. March, ou encore les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Viennent ensuite des livres qui sont une forme d'autobiographie positive, comme certains livres de Colette, par exemple, ou encore la trilogie de Marcel Pagnol. On trouve aussi des portraits de famille un peu folle-dingue ou loufoques, par exemple dans Au bonheur des ogres de Pénac, et enfin des familles qui sont en fait des lieux de solidarité et de refuge par rapport à l'adversité du monde. On en trouve pas mal chez Balzac, par exemple dans Les Illusions perdues, où l'on peut être témoin du dévouement familial pour Lucien de Rubempré. Il y a des textes sublimes qui ont été écrits sur les parents, et notamment sur leur perte immense, par exemple les notes sur le chagrin de Chimamanda Ngozi Adichie sur son père. Récemment, j'ai adoré L'avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovitch, qui raconte sa relation avec son père. Enfin, il y a aussi plein de belles fresques familiales qui m'ont marqué, et peut-être que vous aussi. Quand j'étais petite, je lisais « Quatre sœurs » de Malika Ferjouk et j'étais super heureuse de faire moi aussi partie d'une famille de 4 enfants. Certains livres sur la famille sont même l'occasion rêvée de raconter l'histoire d'un siècle ou d'un pays. Je me souviens non sans émotion de ma lecture des Raisins de la colère de Steinbeck sur une famille qui émigre coûte que coûte. Des Thibauts de Roger Martin Dugard ou encore de L'impasse des deux palais de Naguib Mahfouz. Bref, la famille, il y a de quoi, vous l'aurez compris, en faire toute une histoire. Et c'est franchement impossible de tout dire dans un podcast.
Ce qui est fascinant dans la famille, c'est que l'on partage les mêmes racines, mais que l'on peut aussi avoir l'impression de ne rien avoir de réellement en commun. Pas la même vie, pas les mêmes projets et des façons de voir le monde très différentes. Et si ce lien, finalement, était le fil d'or de nos familles à entretenir, pour rester ouvert sur les autres et garder ce souci des autres? Parfois, il arrive d'ailleurs que ce soit les personnes plus âgées dans notre famille qui se préoccupent de ce qui compte le plus entre nous, ce lien. Ce lien malgré nos différences, ce lien malgré nos visions du monde parfois opposées, ce lien malgré nos jugements enfouis peut-être. Victor nous raconte la place qu'occupait sa grand-mère au centre de sa famille.
Étant donné que toute ma famille est plutôt politisée sur des idéologies qui ne sont pas les mêmes que les miens, c'est pas toujours facile. Surtout, on a l'impression que moi je suis politisé parce que je dis un truc de différent de tout le monde qui a plutôt le même avis et qui se rendent pas compte du coup qu'ensemble ils disent plein de choses qui sont politisées et qui peuvent être vécues comme des piques ou des attaques de mon côté. Pour autant, ce que j'ai toujours trouvé beau, ça a été même si plein de sujets peuvent être source de tension, que ce soit par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment dans la société, que ce soit par rapport à la situation géopolitique, par rapport à la sexualité, au genre, par rapport à ce qu'on va manger pendant les fêtes. Même si tout ça est source de tension et de désaccord, il y avait un critère qui faisait que tout allait bien se passer, ma grand-mère. Pourquoi ? C'est pour un million de raisons. C'est que, à la fois, on a envie que ce soit un moment où elle profite, où on profite toutes et tous de pouvoir passer du temps avec elle. À la fois, c'est parce que toutes les histoires qu'elle nous raconte, elle qui a vécu la guerre, ça nous remet dans des postures d'humilité et où du coup, on met peut-être un peu de côté nos différends pour être à son écoute et passer un bon moment plutôt que de débattre sur des choses sur lesquelles on a du mal à trouver des accords. C'est peut-être le côté italien du déjeuner dominical chez la nonne, où tout le monde se rassemble et va parler fort et rigoler fort pendant l'ensemble du déjeuner.
Alors concrètement, que faire lorsqu'on aborde les fêtes et les repas de famille à reculons ? Lorsqu'on y va en ne sachant pas sur quel pied danser ? Est-ce qu'on doit rappeler à l'ordre son oncle quand il commence à partager des propos que l'on juge un petit peu racistes ? Comment faire pour que le repas de famille soit un moment d'amour et de joie, malgré toutes les différences qui semblent nous opposer ? Pendant l'écriture de cette première saison de Grand Écart, on s'est rendu compte de l'importance de la posture. Autrement dit, la façon dont on dit les choses compte autant que le message. Facile à dire, mais si difficile à mettre en pratique.
Par chance, Lucie avait entendu parler de Loretta Jaros et de sa méthode de calling in. Loretta Jaros est une activiste américaine très engagée dans la lutte antiraciste et la justice sociale. À travers son engagement, Loretta Jaros n'a cessé de regretter de voir autant de citoyens mobilisés pour un monde meilleur et pourtant utiliser des techniques qui coupent le dialogue et le lien avec les autres. À la fin, le plus grand perdant reste évidemment l'avancée de la cause. Alors, elle invite à favoriser, lorsque cela est possible, le calling in sur le calling out. On explique. C'est le fait de dénoncer publiquement quelqu'un pour des propos tenus ou des actions menées que l'on juge inacceptables. Cela peut être dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi autour de la table lors d'un repas de famille. Bien sûr, cette tactique est pertinente dans certains contextes, notamment lorsqu'il s'agit d'interpeller des décideurs politiques ou économiques. En famille, elle est aussi bien sûr dans des situations de violence et d'abus. Mais dans d'autres situations, où l'on souhaite plutôt échanger avec l'autre, pouvoir lui dire notre désaccord ou qu'il nous a blessés, cette approche peut parfois couper le lien avec l'interlocuteur en face. Dans ce type de situation, tacler, rappeler à l'ordre méchamment ou partager des injonctions ne participe qu'à braquer la personne en face de soi. En découvrant les travaux de Loretta Jaros, j'ai décidé de suivre sa formation pour voir si elle proposait une méthode qui permette de faire évoluer sa posture et d'avoir des outils au quotidien. C'est bien le cas, alors on vous partage tout ça aujourd'hui. Sa proposition est de passer d'un calling out, d'un « tu peux pas dire ça », à un calling in, qui serait une sorte de rappel à l'ordre, mais fait avec amour.
Prenons un exemple. Nous sommes à table, on va attaquer le fromage. Mon grand-oncle Hubert commence à parler de la loi sur l'immigration. Il nous raconte combien dans sa ville, les violences ont augmenté et qu'il regrette que cette loi ne soit finalement pas passée. L'arrivée de « ouvrez les guillemets car je cite nombreux » n'est pas sans conséquence. Là, je suis prise d'un grand coup de chaud. J'ai envie de lui crier dessus. Dans ma tête, je me dis « Hubert a dit un truc raciste, donc Hubert est un gros raciste ». La première étape, c'est de prendre conscience du raccourci que l'on fait automatiquement. Avant de catégoriser Hubert et lui coller la grosse étiquette de « grand-oncle raciste », de le déshumaniser, le diaboliser, il est essentiel de rester sur les propos et uniquement sur les propos. Le premier réflexe pourrait être de lui dire violemment « on n'utilise pas ce mot » ou encore « tu n'as pas le droit de dire ça ». Mais le risque, c'est qu'il se braque. Et finalement, qu'il continue à dire ça en se disant qu'on est simplement une radicale de l'autre pan politique.
Alors, à la place, voici quelques alternatives qui permettent de le faire préciser son propos et d'ouvrir une discussion. Ces phrases, elles peuvent être prononcées à table ou individuellement après le repas. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'on se sente suffisamment calme et en capacité d'ouvrir la discussion. Alors, les voici. Grand-oncle Hubert, quand tu dis ça, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Tu aurais le temps d'en parler un petit peu plus, maintenant ou à un autre moment ?
J'aimerais revenir sur quelque chose qui vient d'être dit et qui me semble être un manque de respect. Je pense sincèrement que c'était pas ton intention. Est-ce qu'on peut en parler ensemble ?
Ou encore, je remarque que peu de personnes peuvent s'exprimer. Est-ce qu'on peut ralentir un petit peu le rythme pour que chacun puisse partager sa perspective s'il le souhaite ? Alors, cette question de posture est très liée à notre rapport au conflit. Dans ses travaux, Loretta Gerros nous encourage à apprendre à gérer le conflit, à apprendre de lui, à être plus conscient et stratégique sur la façon dont nous l'abordons.
Cet enjeu de gérer le conflit, ça me fait penser aux travaux de Mary Parker Follett, qui est l'une des premières penseuses du management. Elle a notamment écrit sur le conflit et la négociation. D'après ce que j'ai lu sur elle, elle était super forte pour écouter et poser les bonnes questions. Elle a théorisé ce qu'elle appelle le conflit constructif. Un conflit constructif, c'est un conflit dont on sort par le haut. Pour Mary Parker Follett, dans un conflit entre deux personnes, il n'y a pas une personne qui est supérieure à l'autre. Chacun a sa place dans la société et chacun y joue son rôle comme il peut, avec ses talents, ses compétences et potentiellement les limites de ses talents et compétences aussi. Il faudrait cesser de voir le conflit comme un dysfonctionnement, car en voulant éliminer le conflit, parfois on élimine la diversité. Dans un conflit, chacun dispose d'informations que l'autre n'a pas et interprète à sa façon les informations qu'ils ont en commun. Pour Follett, il faut parvenir à échanger, malgré la méfiance, les arrière-pensées que chacun prête à l'autre et les pièges du langage. Bon, bah, bon courage. Alors comment on fait pour sortir des conflits autrement que par la domination de l'un sur l'autre ou par le compromis, qui ne satisfait souvent personne et frustre tout le monde? Pour Mary Parker Follett, cela passe par l'intégration. Expliquons-nous. L'intégration, c'est pas évident, car ça demande d'inventer quelque chose avec la personne avec laquelle on est en conflit. Inventer une troisième voie, plutôt que la voie 1 qui gagne sur la voie 2, ou d'un mélange de 1 et 2 ensemble. Il faut parvenir à sortir du conflit par le haut, en cherchant ce qui peut satisfaire les intérêts des deux personnes. Pour cela, il faut accepter de parler sincèrement avec l'autre de ses désirs, de ses peurs, de ce que l'on souhaite. Il faut être ouvert à leur reformulation. Et il faut, à partir de tous ces désirs mis sur la table, parvenir à être créatif. Bon, moi, je trouve que rien que reconnaître dans un conflit que la solution n'est peut-être pas la voie 1 que l'on pousse, vs la voie 2 que pousse l'autre, c'est déjà assez fort. Mais alors, chercher à inventer cette troisième voie ensemble, en comprenant l'autre et en essayant de satisfaire ce qu'il souhaite, sans qu'aucun de nous deux ne sacrifie quoi que ce soit, je trouve ça encore plus chouette. Alors, même si on est maintenant un petit peu équipé ou inspiré au travers de calling in et de conflits plus intéressants pour nos repas de famille, on n'est pas non plus obligé d'en rêver. Ou en tout cas de rêver de ceux qu'on avait dans notre enfance ou ceux qui sont reproduits dans notre famille. On peut s'autoriser un pas de côté par rapport aux traditions et aux célébrations. Mon amie Emma nous raconte comment elle célèbre Hanouka.
Ah, il veut ton enregistreur.
Non,
donc voilà, donc
non,
on est des parents hyper résistants. Donc voilà, maintenant c'est ton enregistreur, Ezra. Joyeux anniversaire. On a allumé des bougies tous les soirs pendant 8 jours. On a eu des gens qui sont venus à la maison chaque soir. Et il y avait plein de cadeaux, des chants, on a fait une petite boum. À toutes les fêtes juives, souvent au Shabbat, t'as un plat qui est mis en plus, vide. Au cas où il y a quelqu'un qui vient. C'est un peu dans la culture. Non, cette année c'est un peu spécial parce qu'il y a une petite star, une guest star qui est là, qui est notre fils. Et l'année dernière, il était tellement petit qu'il captait quand même pas grand chose. Moi je sais que j'avais une famille assez austère. On faisait Hanouka jusqu'à mes 10 ans. On faisait pas Noël parce que c'était le subtil du capitalisme et les catholiques. Donc autant vous dire, c'était la joie en fin d'année à la maison. Ou une fois que j'ai eu un enfant, j'ai eu gros sapin, Hanouka, joie, quotidien. Et puis après, mon mec m'a quitté et là, tout est parti en couille. non, je rigole. Non, mais oui, du coup, c'est important pour moi de garder de la joie en cette fin d'année. Et puis je pense que ça a été créé clairement pour lutter contre la dépression hivernale, quoi. Un peu une ambition de lumière. Et d'ailleurs, la fête des lumières, qui est Hanouka. Donc, non, c'est maintenant, c'est devenu important et joyeux comme fête. Ah, et je suis désolée, mon fils a voulu participer en jouant un peu de la musique. Je trouve ça beau, les fêtes de fin d'année, je suis très pour, quelque religion que soit. Moi, j'avoue, je fais Noël alors que je suis juive et je fais Hanouka. alors que je suis catholique. Non, mais voilà, donc c'est un... Et du coup, Ezra, il a le double cadeau de l'enfant classique, quoi. L'idée, c'est que vraiment construire un mégalomane.
Si on n'a pas envie d'un repas de famille cette année, on s'autorise aussi à faire autre chose. Pour Jérémy, par exemple, sa participation au repas de Noël n'est pas encore garantie. Il nous explique.
En sujet de dispute, je dirais que c'est pas forcément des sujets de société où ça peut être sur les mœurs, l'écologie, etc. C'est plus des sujets, on va dire, plus profonds, on va dire, de relations, d'entente entre deux personnes qui sont cristallisées avec Noël parce qu'il y a un peu cette pression. Et je le sais qu'en ayant ma psy qui disait que c'était un moment... pour tous ces patients, de stress énorme, parce qu'il y a l'idée qu'il faut réussir un peu cet inconscient collectif qu'on voit dans les images, la pub, la télé, les films, que Noël, c'est un moment réconfortant, etc. Ce que ma psy disait, c'était au contraire, les patients revenaient en janvier beaucoup plus détruits qu'en décembre. En décembre, ils appréhendent, et en janvier, ils avaient beaucoup plus de mal. Donc elle avait encore plus de travail, quoi. Donc au final, c'est aussi cette tension entre... vouloir que ça se passe bien, être le bon fils, et aussi on retourne dans son rôle de fils, de mère, voilà, on retrouve dans ses travers, c'est ça aussi qui est difficile. On est résumé à un rôle qu'on n'a plus dans sa vie de tous les jours, qui peut être insupportable, et voilà, ça crée plein de, voilà, de tensions, de stress aux personnes en amont, et surtout après pour s'en remettre. Et moi, je dirais, ouais, c'est cette tension entre on veut que ça se passe bien et la réalité, qui est difficile, et ce devoir qu'on a d'être présent. Alors que peut-être, on peut se poser la question de est-ce qu'on est obligé de le faire, de fêter Noël en famille, si c'est pour ça se passe mal. Moi, pour la première fois, je me pose la question. Et je me dis, bah, moi, ce qui m'a aussi un peu ma vraie famille, c'est mes amis. Et je pense de plus en plus à sacraliser le fait de faire un Noël entre copains, ce qu'on ne fait pas forcément. Où tu sais que ça va mieux se passer, partager les valeurs. Donc voilà, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, famille Noël, mais si c'est trop douloureux, ben, je pense qu'on peut se poser la question. Au lieu de faire un Noël auto-centré sur ta famille, à se faire des cadeaux, etc., ben, ça peut être passer du temps dans une asso pour des gens plus démunis. Et peut-être que tu vas passer un meilleur moment où, je sais pas, ça peut être accueillir des migrants, avoir un truc, quelqu'un d'extérieur ou toi aller à l'extérieur. Et peut-être tu passeras un meilleur Noël. C'est moins traditionnel, mais au final, ce sera une vraie expérience, quoi.
En plus des idées de Jérémy, on s'est dit qu'on allait vous partager d'autres idées pour réinventer les fêtes et enchanter les célébrations familiales. Cette année, par exemple, moi j'aimerais bien faire une célébration littéraire, puisqu'au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'adore lire. Donc j'ai proposé aux membres de ma famille de chacun lire un texte, une chanson, ou bien pourquoi pas de lire ensemble un bout d'une pièce de théâtre.
De mon côté, j'aime bien proposer à chacun de partager un moment de l'année qu'il a vécu, ce qui permet de donner une perspective sur la réalité de chacun autour de la table, et de distribuer la parole.
Agathe nous raconte ses idées pour réinventer les cadeaux.
Avant, quand j'étais enfant, il y avait vraiment un truc d'excitation de Noël qui se passait, et depuis que j'ai un peu mis mes lunettes... anticapitaliste, éco-responsable, sensibilisé un peu plus aux questions sociales et environnementales. Et ben Noël, je l'aborde plus du tout pareil. Il y a un peu un truc de ça concentre absolument tous les travers un peu consuméristes de notre société. Et ça, dans un moment qui est censé être un moment de retrouvailles joyeuses de famille, sauf qu'en fait, ça visibilise les chemins que les uns et les autres ont choisis, dans le sens où moi, j'essaie vraiment de faire des cadeaux. C'est plutôt d'occasion, c'est plutôt fait par moi-même. Et quand on reçoit des cadeaux, il y a toujours un truc de l'intention est chouette. Bah, c'est gentil, mais en même temps... dans un mouvement un peu de revenir un peu à l'essentiel, arrêter de racheter dans tous les sens, et ben c'est super gênant en fait de devoir dire bah aujourd'hui j'ai pas envie de passer pour la rabat-joie qui dit désolé en fait je veux pas trop de cadeaux, enfin je veux des choses non matérielles d'occasion, etc. Je sens que ça avance depuis quelques années quand même. Les gens font beaucoup plus des cadeaux d'occasion, J'ai des retours sur le fait que je suis un peu compliquée en cadeau parce que c'est moins évident, les gens n'osent pas m'acheter de vêtements parce que j'achète tout un peu d'occasion. Les livres, ça marche toujours, mais pareil, je demande plutôt d'occasion parce que c'est un peu ça, les cadeaux, quand on réfléchit, c'est un peu... C'est quoi la valeur que j'ai aux yeux des gens? Et je pense qu'il faut, vraiment un peu profondément changer ça. Le côté, c'est pas parce que j'ai un cadeau qui coûte tant d'euros que en fait, les gens m'aiment. C'est plus comment est-ce qu'on valorise la relation qu'on a aux autres autrement que par le matériel. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se pencher dessus, que ce soit à travers des lettres, à travers le fait qu'on fasse des trucs avec nos mains et qu'on passe du temps à faire des choses pour les autres. Le fait de proposer aussi, par exemple, des week-ends ou des expériences un peu à deux pour passer du temps privilégié et apprendre à se connaître hors cadre de famille où on est souvent un peu vu comme le frère, la sœur, le tonton, la tata, le grand-père, mais on ne connaît pas vraiment les personnes en tant que telles hors cadre familial. Et j'ai le sentiment que le Noël de demain, il existera à travers plus ce genre d'espace-là, où on met plus, on arrive un peu à se redire qu'on tient les uns les autres sans passer par des objets.
Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 1 de Grand Écart. Le rythme a été un petit peu tendu car on a toutes les deux un travail à côté, mais ça a surtout été une belle aventure pour nous de vous retrouver chaque semaine. Ça a donné lieu à des débats enflammés entre Paris où j'habite et Barcelone où habite Solène. Et puis, on s'est permis de rajouter des grains de folie de temps en temps juste pour se faire plaisir. En 12 épisodes, on a réfléchi à la portée de notre parole en écoutant un discours de mariage sur la crise climatique et en se demandant si on a le droit de changer d'avis. On a pensé aux liens qui nous obligent ou qui nous libèrent, avec les entreprises, avec nos amis perdus car trop différents de nous et quand même parfois retrouvés. On a pensé à la réconciliation, notamment avec les infos. On s'est regardé dans la glace et on s'est demandé ce qu'on y voyait, ce que notre peur des cheveux blancs dit de notre société, ou encore pourquoi, oh oui, pourquoi on avait pris l'habitude de casser l'ambiance en soirée.
On était deux derrière le micro, mais beaucoup plus en coulisses. Et vraiment, on s'est régalé à faire cette première saison en équipe, notamment avec les contributions musicales incroyables de Talia au ukulélé. Talia a d'ailleurs une page SoundCloud qu'on vous partage en référence. Les conseils avisés de Simon et Hélène, le design de Daniel et Clem, et le soutien inconditionnel chaque semaine d'Aurore qui était en charge de la réalisation et du montage. Chaque semaine, nous avons reçu des petits messages, des commentaires et des notes vocales dans lesquelles vous nous avez partagé vos retours sur les épisodes, vos réactions, et c'est de loin le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Les audiences aussi témoignent de l'intérêt partagé à tous ces sujets évoqués, et l'on espère que vous nous soufflerez d'autres idées pour une prochaine saison. D'ici là, faites circuler Grand Écart autour de vous, car c'est en parlant des sujets qui fâchent qu'on arrive doucement à faire advenir le monde auquel on aspire vraiment.
On va faire bilan de ta vie. Tout le monde donnera son avis. Toujours pas de promotion. T'es sûr que t'as assez d'ambition. Même si ça ne me regarde pas, j'ai toujours pas de bague à ton doigt. Faire des enfants, tu penserais pas. Moi à ton âge, j'en avais trois. Vite que je trouve de pas où réplique. Quand ma tante parle horloge biologique. Tout ce que je veux ce soir, c'est d'éviter le grand écart. Ooh, baby. Bientôt vient l'heure du grand débat sur l'immigration, ça va toi. De soi, ton nom serait devenu expert. Entre le plat et le dessert, pas la peine d'argumenter. Tu es trop jeune pour percuter. Utopiste, pleine d'illusions. N'essaye même pas de faire entendre raison. Faut vite que je trouve de bonnes répliques. Pourquoi marquer si systématique? Pas sûr finalement ce soir. J'arrive à éviter le grand écart.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.